L'ambassadrice d'Iran à Copenhague a été agressée. L'Iran a critiqué l'attaché danois pour la réponse tardive de la police de Copenhague à l'attaque à main armée contre l'ambassade d'Iran au Danemark. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a critiqué le Danemark pour ne pas avoir assuré la sécurité de l'ambassade et l'ambassadrice de la République islamique à Copenhague après qu'un assaillant armé a fait irruption dans les locaux de l'ambassade d'Iran dans le pays. Lors d'un appel téléphonique avec l'ambassadrice d'Iran à Copenhague, Afsane Nadipour, vendredi, Amir Abdollahian a déclaré qu'il était regrettable qu'une telle attaque se soit produite en toute impunité diplomatique contre une femme ambassadrice au cœur de l'Europe. Il a également reproché à la police danoise d'avoir tergiversé pour empêcher l'intrus de commettre son attentat. L'envoyé iranien à Copenhague a ensuite informé le ministre des Affaires étrangères des circonstances entourant l'attaque comme suit. Après s'être précipité dans les locaux de l'ambassade, l'agresseur armé a commencé à menacer, terroriser et endommager des véhicules dans le parking de l'ambassade. Malheureusement, et malgré les avertissements officiels précédents, la police danoise est arrivée à l'ambassade avec un retard considérable, a ajouté Nadipour. Le directeur général pour l'Europe occidentale au ministère iranien des Affaires étrangères a également convoqué l'ambassadeur du Danemark à Téhéran pour protester formellement contre l'insuffisance des mesures de sécurité pour l'ambassade d'Iran et ses diplomates. Au cours d'une réunion, l'ambassadeur du Danemark s'est vu rappeler les responsabilités du gouvernement hautes de protéger les missions diplomatiques des autres pays et la nécessité pour le gouvernement danois de respecter ses obligations internationales à cet égard. En réponse, l'ambassadeur du Danemark a présenté ses excuses pour l'incident, affirmant que les mesures de sécurité seront renforcées après l'incident. Il a ajouté qu'il transmettra immédiatement la protestation de l'Iran à Copenhague. Entre-temps, la police danoise a annoncé avoir arrêté l'agresseur. La police danoise a déclaré plus tard vendredi avoir arrêté l'homme de 32 ans qui a attaqué l'ambassade d'Iran à Copenhague. L'homme, un citoyen iranien, avait été maîtrisé par un employé avant d'entrer dans le bâtiment de l'ambassade, a indiqué la police. Dans une interview télévisée, deux espions français admettent avoir tenté d'inciter à des émeutes en Iran. Cécile Kohler et Jacques Paris ont été arrêtés pour espionnage en Iran le 7 mai 2022. Les deux ressortissants français, Cécile Kohler, 37 ans, et Jacques Paris, 69 ans, s'étaient rendus en Iran le 28 avril en tant que touristes, mais se sont plutôt révélés être des espions pour des agences occidentales. Deux espions français arrêtés en Iran il y a environ 4 mois ont admis avoir tenté de provoquer des manifestations antigouvernementales et des émeutes dans le but ultime de faire pression sur le gouvernement iranien. Dans une vidéo diffusée jeudi sur la chaîne d'information iranienne en langue arabe, Al-Alam TV, Kohler a admis être un agent de la Direction générale de la sécurité extérieure des DGSE française, l'équivalent du MI6 britannique et de la CIA américaine. Dans l'enregistrement, Kohler a avoué qu'elle et son partenaire s'étaient rendus en Iran dans le but principal de déclencher une révolution dans la République islamique et de renverser le gouvernement iranien. Elle a expliqué qu'ils avaient apporté d'importantes sommes d'argent pour financer des émeutes et des grèves et pour acheter des armes afin de semer le chaos. Kohler a ajouté que les armes étaient destinées à être utilisées pour combattre la police si nécessaire. Selon l'autre espion également montré dans la vidéo, l'objectif de la DGCE était de faire pression sur le gouvernement iranien. Le ministère iranien des renseignements a annoncé en mai qu'il avait arrêté deux espions français pour avoir tenté de semer le chaos et le désordre social dans le pays lors de manifestations d'enseignants. Selon le ministère, le couple a tenté de fomenter l'instabilité et le désordre social lorsque certains enseignants sont descendus dans la rue lors de manifestations pacifiques pour exiger des salaires équitables et de meilleures conditions de travail. Après l'utilisation présumée d'une arme secrète, l'Ukraine a perdu son accès à Internet par satellite et Starlink de Elon Musk. Sur le territoire ukrainien, l'accès à Internet par satellite et Starlink a presque complètement disparu. Cela a entraîné des pertes extrêmement graves pour l'armée ukrainienne, ce qui, entre autres, est confirmé par les médias américains. Cependant, ce qui est encore plus remarquable, c'est la perturbation du réseau satellite et Starlink enregistré le lendemain après que des journalistes russes ont rapporté la prétendue utilisation d'armes secrètes. Selon ses responsables et soldats, l'armée ukrainienne signale des dysfonctionnements de ses appareils de communication Starlink sur les lignes de front. Entravant les efforts offensifs, certaines des pannes ont entraîné une perte catastrophique des communications ces dernières semaines, a déclaré un haut responsable du gouvernement ukrainien ayant une connaissance directe du problème. En conséquence, les forces russes auraient fait des progrès significatifs dans l'offensive, a déclaré le responsable sous couvert d'anonymat, rapporte le Financial Times. Il y a quelques jours, le journaliste russe Yuri Kotenov a rapporté que des armes avancées pouvaient être utilisées et littéralement le lendemain, de graves interruptions de l'accès à Internet et Starlink ont commencé à être observées sur le territoire ukrainien. Néanmoins, pour le moment, il n'y a aucune information fiable sur l'utilisation réelle de systèmes laser, ce qui est activement discuté sur le web. Cependant, ce qui est assez remarquable, selon Starlink, l'accès à l'Ukraine est en effet temporairement suspendu, à peu près comme en témoignent les correspondants donnés sur une carte spéciale où l'Ukraine est indiquée comme une région avec accès à Internet par satellite. Cependant, lorsque vous survolez la région, il n'y a aucune information sur sa disponibilité. Le magazine Military Watch, spécialisé dans les armes et équipements militaires, a révélé cinq raisons fondamentales qui expliquent le refus de l'Occident de fournir à l'Ukraine des chars modernes américains et allemands tels que les Léopard 2 ou les MA Abrams. Même refus pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, dont la demande a été faite une énième fois par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, directement après la cérémonie de l'officialisation par le président russe Vladimir Poutine de l'adhésion des régions de Donbass, de Kherson et de Zaporijjie à la Russie. Adhésion réclamée à travers les référendums réalisés dans ces régions. S'agissant des raisons du refus de livrer les chars, la première en est, selon Military Watch, la crainte sérieuse que ces chars dont dépendent l'OTAN et les pays alliés occidentaux à travers le monde ne tombent entre les mains des Russes. La seconde, peut-être la plus importante selon le magazine, est que les utilisations passées d'Abrams et de Léopard 2 contre des acteurs non étatiques ont soulevé des questions importantes quant à leur efficacité. L'organisation Stars and Stripes, qui a évalué la réputation du char allemand, a assuré qu'il avait été bombardé lors de batailles avec des combattants de l'EI Daesh en Syrie. Quant au magazine National Interest, il a qualifié de choquante les performances de ces chars, estimant qu'ils n'ont pas de bonne armure et qu'ils se sont révélés embarrassants au combat, bien qu'ils n'aient pas affronté des adversaires bien armés, faisant référence à la Russie. L'article du Military Watch indique aussi que l'armée turque a utilisé ses chars de la même manière contre les milices kurdes et a également subi des pertes, et les pertes d'Abrams irakiens étaient tout aussi graves. La troisième raison en est le coût de fonctionnement des Léopard 2 et Abrams M1 qui est très élevé, car l'un d'eux utilise du carburant avec voracité et l'autre utilise des moteurs à turbine à gaz nécessitant beaucoup d'entretien. La quatrième raison serait que ces chars ne sont pas compatibles avec les stocks de blindage actuels en Ukraine, où l'intégration de nouveaux calibres de munitions constitue l'un des problèmes que cela peut causer. En ce qui concerne la cinquième cause, elle est liée au fait que les chars occidentaux, contrairement aux chars russes et soviétiques, sont trop lourds pour emprunter des infrastructures civiles telles que les ponts et les routes, ce qui limitera les avantages qu'il pourrait apporter à l'armée ukrainienne. Selon Military Watch, bien que de nombreux pays occidentaux possèdent ces chars, aucun d'entre eux n'a soumis de demande à l'Allemagne ou aux États-Unis pour leur utilisation par un tiers, à savoir l'Ukraine. Interrogé sur la possibilité pour les États-Unis de fournir des chars à l'Ukraine, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a affiché une fin de ne recevoir en déclarant vendredi 30 septembre « Je n'exclus rien, mais je ne suis pas prêt à annoncer aujourd'hui que l'Ukraine fournira des chars ». Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, affirme que le nombre de personnes qui ont rejoint les forces armées russes en réponse à l'appel à la mobilisation partielle a jusqu'à présent dépassé les 200 000. Selon le décret du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, une mobilisation partielle a lieu dans le pays depuis le 21 septembre. À ce jour, le nombre de personnes qui ont rejoint les forces armées a atteint plus de 200 000, a dit Choïgou. Le ministre russe de la Défense a ajouté que la formation des membres des unités constituées se déroule dans 80 terrains d'entraînement et 6 centres d'enseignement, expliquant que des instructions ont été données aux responsables concernés pour fournir aux recrues l'équipement nécessaire et les affecter à leurs postes et positions militaires. Une mobilisation partielle a été annoncée en Russie à partir du 21 septembre dernier, lorsque le président russe Vladimir Poutine a signé un décret déclarant une mobilisation partielle en Fédération de Russie, selon le service de presse du Kremlin. Le décret présidentiel prévoit l'appel de 300 000 réservistes et de ceux ayant une expérience de combat, soit un peu plus de 1% des ressources totales des forces de réserve de la Fédération de Russie. Le principal facteur lors de l'appel à une mobilisation partielle est l'expérience de combat, a déclaré l'amiral Vladimir Tsemilianski, porte-parole de l'administration générale pour l'organisation et la mobilisation de l'état-major général des forces armées russes. La mobilisation partielle est basée sur la mise en œuvre du recrutement de citoyens de la Fédération de Russie qui ont une expérience militaire antérieure ou qui ont suivi des cours militaires dans l'armée et jouissent d'un certain niveau de formation pour participer au combat en Ukraine sans viser le public général. C'est ce qui la distingue de la mobilisation générale qui touche toutes les couches de la société entre 18 et 50 ans.